Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women in Copernicus.
Women in Copernicus est une initiative née en 2020 sous l'impulsion de 7 femmes actives dans les programmes de l'observation de la Terre de l'Union européenne.
Nous partageons la volonté de donner la parole aux femmes, d'être plus visibles et mieux reconnues dans un domaine où nous sommes souvent peu représentées.
Nous avons voulu, Roberta, Gwenaëlle, Guglielmo et Marie, vous raconter des histoires de femmes, ici, en Bretagne.
Avec elles, nous vous ferons découvrir un domaine qui nous passionne, autour d'images satellitaires, de technologies, de compétences et bien sûr, de femmes.
Pour ce 7e épisode, on est avec Marine Boulogne, spécialiste géomatique à l'ONF, l'Office National des Forêts. Avant d'arriver là où elle est aujourd'hui, elle a étudié géographie et télédétection à Rennes 2. Ensuite, elle enchaîne un master en écologie à Toulouse et un test de géographie à l'université Grenoble-Alpes. Finalement, elle a un parcours assez proche de celui des femmes chercheuses que nous avons interviewées dans le podcast. Mais elle est maintenant sortie de la voie académique pour travailler à l'ONF. Une agence peut-être pas connue par tout le monde. Heureusement, Marine est là pour nous expliquer de qu'est-ce qu'il s'occupe cette agence et ce n'est pas que des forêts.
Alors l'ONF, l'Office National des Forêts, c'est un établissement public qui a vocation à gérer en fait toutes les forêts publiques pour garantir plutôt une gestion durable de la ressource forestière. Et en plus de ces aspects forestiers, ce que les gens ne savent pas trop, c'est qu'on a d'autres types de missions, ça s'appelle des MIG, des missions d'intérêt général. Et on a quatre types de MIG plutôt. On a une MIG qui est liée au RTM, donc restauration de terrains de montagne, où les personnes interviennent pour en cas de problème d'éboulement rocheux, des choses comme ça sur des terrains gérés par l'ONF, et ben on fait des interventions de travaux. Il y a la MIG dune. Il faut savoir que l'ONF gère 380 km de dunes qui s'étendent du nord au sud de la France, en fait, sur la façade atlantique et la Manche et la Bretagne. On a 3 dunes en Bretagne, il me semble. Et en fait, on est dans la gestion parce qu'il y a des forts enjeux humains d'accueil du public, notamment puisqu'il y a beaucoup d'installations de camping, des choses comme ça sur les dunes, notamment en lande nord Aquitaine. Et il y a la dune, je ne vous l'apprends pas, c'est un milieu quand même très mouvant. Et du coup, il y a beaucoup de gestion, de travaux à faire dessus. Et il y a quand même beaucoup de biodiversité dans ces milieux. Et il faut essayer de préserver ces milieux tout en réussissant à ne pas que c'est trop d'impact sur les activités anthropiques. Il faut trouver un peu un équilibre. Et on a aussi une MIG biodiversité. Bon, ça se dit, ça s'explique comme ça. Et une MIG défense des forêts contre les incendies. Et cette MIG-là, elle est plutôt dans le sud de la France où il y a des plus gros problèmes sur ces questions-là.
Ce qui nous saute aux yeux dans les parcours de Marine, c'est les fils conducteurs de la forêt, sujet sur lequel elle a commencé à travailler en 2012 lors d'un stage et sur lequel elle continue à travailler. Ça nous vient du coup naturellement de lui demander comment elle est venue travailler sur ces sujets et ce qui la passionne dans les milieux forestiers.
En gros, la forêt, je suis tombée dedans en arrivant à Rennes 2 en licence 3 de géographie où il y avait un laboratoire où il y avait beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur la déforestation tropicale. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est le seul sujet qui m'a vraiment intéressée. Peut-être parce qu'il y a des forts enjeux, que ce soit sociétaux ou climataux ou de conservation en fait, de la biodiversité. Et c'est un peu ce pourquoi je pense que je me suis orientée vraiment sur ces questions-là. Au début j'étais vraiment que forêt tropicale, mais oui, au début j'ai fait de la recherche, mais j'ai plutôt voulu aller vers le public et la gestion des milieux publics en métropole.
Que ce soit tropicaux ou tempérés, voilà, globalement, quels sont les enjeux forts de la forêt aujourd'hui ?
Par exemple, dans le cadre de mon travail actuel à l'Office national des forêts, on a quand même des grosses questions liées au changement climatique, à la résilience des écosystèmes forestiers. Notamment avec des grosses questions sur les dépérissements, que ce soit lié à la sécheresse, comme en dans le centre de la France, ou lié à des ravageurs, notamment les scolytes dans l'Est.
Qu'est-ce que c'est une scolyte ? Comment on peut se l'imaginer ?
Un scolyte, c'est un petit insecte qui va faire des trous dans le bois et qui va en fait, du coup, couper les transferts d'eau ou de sève. Et du coup, l'arbre, il va plus pouvoir, en fait, il n'y aura plus de montée de sève possible. Et du coup, l'arbre, il sera plus nourri. Et du coup, plus de photosynthèse puisque les épines vont tomber et mener à la mort de l'arbre. Le scolyte, quand il s'est installé, si on ne traite pas tout de suite les arbres qui sont infectés, en fait, ça te détruit une parcelle en pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet For Dead. En fait, ils ont mis en place une méthodologie à l'UMR Tétis d'une méthode de détection automatisée des dépérissements liés au scolyte de l'épicéa parce que ça touche vraiment des surfaces énormes. Quoi.
Quand on parle de télédétection et de forêt, on a cette image de vue aérienne ou satellite, avec des cartes de la forêt tropicale qui est grignotée par la déforestation au profit de pratiques agricoles ou d'exploitation de ressources. Mais pour Marine, qui travaille sur des forêts françaises, on lui demande quel est l'apport de la télédétection pour la gestion des milieux forestiers.
C'est des questions qui prennent vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières années dans notre établissement. Et l'outil satellitaire, pour moi, c'est un peu un bon outil pour aider à la gestion. Et en fait, c'est quelque chose à l'ONF qui commence à se développer, même s'il y a déjà des gens qui travaillent depuis un certain temps sur ces questions de télédétection satellitaire et tout. Mais c'est des choses qui ne sont pas encore très dans les mœurs et qui commencent vraiment à intéresser les gestionnaires pour ces questions liées au changement climatique. Et aussi, il y a des gros enjeux parce que en fait, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle en ce moment la notion de forêt mosaïque. Donc, essayer de voir comment diversifier les peuplements pour avoir plus de résilience face aux modifications qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu, en fait. Trouver des essences qui peuvent s'adapter à des changements assez importants, genre, comme par exemple, des chênes qui sont résistants dans le sud de la France, essayer de les implanter plus au nord dès maintenant pour qu'ils aient une certaine résilience dans les années qui vont arriver. Voilà. Quand on est confronté à des ravageurs, des crises sanitaires, des tempêtes, ou même on fait de la gestion forestière, donc forcément on fait des régénérations, des éclaircies, des choses comme ça, les couverts évoluent. Et du coup, le satellite, ça peut nous servir en fait à avoir des données plus à jour, de manière plus régulière. Et oui, on est d'accord, sur un pixel d'une image satellite, il n'y a pas qu'un arbre, il y a beaucoup d'éléments en dessous qui vont influencer le signal et tout ça. Mais nous, en gros, ce qu'on veut, c'est avoir une idée de ce qui se passe sur des phénomènes tels que le dépérissement, des stress hydriques, des choses comme ça. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir travailler sur des énormes massifs parce qu'on gère quand même pas mal de forêts. Par exemple, le Berry-Bourbonnais-Val-de-Loire, je ne connais pas exactement la surface, mais ça permet d'avoir des infos quasi en temps réel et d'avoir de pouvoir aussi mettre en place des systèmes de suivi, d'évolution, des choses comme ça.
Est-ce que tu connais justement la surface des forêts en France ?
Alors en Bretagne, je connais. Ouais. on gère à peu près 30 000 hectares de forêts. Sachant que la Bretagne, c'est pas la région la plus forestière de France.
Chaque satellite a ses propres caractéristiques d'acquisition. Et il est plus ou moins adapté aux multitudes d'applications. La résolution d'un pixel contenu dans l'image peut varier d'une dizaine de centimètres à plusieurs kilomètres de côté. Dans la majorité des acquisitions satellites, à quelques dizaines de mètres de précision, comme l'évoque Marine. Si on prend un pixel dans l'image satellite, on risque de ne pas avoir seulement l'arbre qui nous intéresse dans l'image, mais aussi tout un tas d'éléments qui compliquent les analyses. Par exemple, on verra les sols autour de l'arbre, ou tout simplement, on ne pourra pas analyser des dommages des petites tailles sous la canopée. On pourrait voir par exemple une mauvaise santé sur plusieurs arbres, mais pas précisément la zone impactée sur chaque branche. Ou encore, on pourrait identifier des arbres sur une zone de quelques mètres, mais pas forcément de quelle variété il s'agit. Or, Marine, dans son parcours, elle a aussi passé les brevets des pilotes de drones. Alors on lui demande si justement les images drones, qui peuvent aller jusqu'à une résolution de quelques centimètres, peuvent être complémentaires aux images satellitaires pour vérifier l'état de la forêt et améliorer sa gestion.
C'est marrant que tu poses cette question. On est en train d'essayer de monter un projet professionnel pour la rentrée, suivi d'un stage sur cette question-là. Parce qu'une autre question qu'on a, nous, c'est que sur un pixel sentinelle, par exemple, on ne va pas voir la proportion de haies, de chênes ou de feuillus résineux de manière directe. Et du coup, on va travailler sur cette question-là. Sur la forêt de fougères, on voudrait essayer de voir comment différencier dans un pixel sentinelle, à partir des données drones, la proportion. Parce que, en gros, le hêtre, c'est une espèce qui est un peu sensible au changement climatique. Donc il y a un peu un enjeu de réussir à essayer d'estimer les proportions pour voir comment on peut soit mettre un peu plus de mélange, voir comment gérer au mieux du coup ces unités de gestion.
Et du coup, toi, ça veut dire qu'au quotidien, hop, tu pars avec ton drone le matin, tu fais des acquisitions, tu rentres au bureau et tu les traites ?
Plus actuellement, parce que en fait, j'ai été formée sur mon poste précédent au drone, où j'étais vraiment la référente drone de l'agence, où je faisais les préparations des missions, j'allais faire mes missions. Et effectivement, oui, derrière, je faisais tout ce qui était photogrammétrie et traitement d'images si besoin derrière. Aujourd'hui, en Bretagne, j'ai un autre collègue qui fait l'acquisition, mais moi, j'ai souhaité garder cette compétence quand même, traitement, photogrammétrie. Et si besoin, il me laisse avec plaisir aller voler. Si ça me manque, et pour maintenir la compétence évidemment.
La recherche est souvent un métier qui permet de voyager, notamment pour les missions de terrain. Et pendant son parcours universitaire, Marine a beaucoup voyagé, que ce soit au Brésil, en Indonésie, en République démocratique du Congo ou encore à Madagascar. On se demande quelles sont les réactions des communautés locales face aux chercheurs et chercheuses venus d'autres pays. Marine nous raconte alors quelle a été son expérience.
En fait, ça dépend beaucoup des contextes parce que selon les missions, par exemple, quand je suis allée au Brésil, je suis allée avec des chercheurs qui connaissaient très bien le terrain. Ils savaient les personnes un peu ressources. Quand on allait sur le terrain vraiment faire des relevés, moi, je ne parlais pas portugais, donc ça limitait un peu les échanges. Mais il y avait, les gens étaient plutôt accueillants et contents de nous voir. On se faisait inviter à manger et tout ça. Enfin, voilà. Ça, c'est pour le Brésil. En fait, moi, j'ai été très peu en lien avec les locaux, au final. En fait, il y a beaucoup, souvent, la barrière de la langue, parce que quand on part en mission, quand même, pour un mois, t'as du mal à apprendre le portugais ou l'indonésien. Enfin, c'est pas... Même si t'apprends quelques mots, tu peux pas tenir une vraie conversation avec les gens pour vraiment avoir leur ressenti ou des choses comme ça. Pour l'Indonésie, j'étais avec une autre collègue et en fait, on avait un guide. En fait, on a très peu côtoyé les personnes. Moi, j'ai très peu eu d'échanges avec des gens parce qu'on changeait tout le temps d'endroit. Et là où j'ai le plus pu discuter un peu avec les gens, c'est à Madagascar au final, où j'avais commencé par essayer de faire quelques entretiens pour avoir le ressenti des gens par rapport au réchauffement climatique sur la zone où j'ai travaillé. Mais là encore, c'est un peu compliqué parce que je parlais pas malgache et c'était un malgache qui me traduisait. Mais il y a toujours ce biais où tu sais pas s'il a bien compris ta question, si la personne répond exactement ce qu'il traduit et tout ça. Et moi, je sais qu'à Madagascar, j'ai été extrêmement bien accueillie par le parc où j'ai travaillé. Ils étaient même très contents, je pense, de recevoir quelqu'un qui s'intéressait à leur forêt. En fait, ça dépend beaucoup des projets parce que, par exemple, le projet en République démocratique du Congo, le Makala, il y avait des gens qui restaient longtemps sur place, vraiment sur le site d'études, et qui pouvaient... Moi, j'ai pas eu cette chance-là, donc je peux pas parler à leur place, mais c'est vrai que le chercheur, il vient, il fait son projet, il repart. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens vont pouvoir mettre en application des choses que les chercheurs ont proposées, qu'on commence à mettre en place ou pas, quoi ? Genre créer des pépinières quand il faut reboiser, des choses comme ça. Est-ce que les populations vont pouvoir le faire, en fait, derrière ?
On pense souvent qu'après un doctorat, on est destiné à une carrière dans la recherche académique ou l'enseignement universitaire. En effet, une étude de l'INSEE montre qu'à 3 ans de l'obtention de leur diplôme, le secteur académique est le premier employeur des doctorants et doctorantes, en employant 47% d'entre eux. La recherche est pourtant loin d'être la seule voie réservée aux docteurs. La R&D en entreprise emploie près de 20% des docteurs. 15,2% trouvent un emploi dans le secteur public et 18,5% dans le secteur privé, en dehors du secteur académique et de la recherche. En revanche, au moment de la soutenance de thèse, une large majorité des docteurs souhaitaient rester dans la recherche. Et seuls 6% voulaient en sortir. Marine fait partie des docteurs qui ont été embauchés dans le public. Mais après une thèse, qu'est-ce qui l'a poussée à prendre un chemin différent ? On lui demande si ça a été un désir d'explorer davantage ou un manque d'opportunités dans le secteur de la recherche.
C'est moi qui voulais changer. Clairement, le doctorat, c'était pas pour moi. Enfin, j'ai beaucoup aimé travailler sur un sujet qui m'intéressait, mais le contexte recherche en France, ça m'intéressait pas, en fait. J'ai vraiment pas accroché avec ce milieu. Et je pense qu'il y a d'autres gens très compétents qui feront des choses vraiment très bien, mais c'était pas pour moi, en vrai. Et moi, j'ai vraiment besoin de ce contexte opérationnel où tu travailles pour quelque chose qui va servir à quelque chose. Et dans ma thèse, en fait, j'étais tout le temps toute seule. J'ai l'impression de servir à rien. Et du coup, j'avais pas envie de continuer dans un domaine professionnel qui, en fait, me correspondait pas du tout. Le contexte de ma thèse était un peu particulier parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans un laboratoire d'hydrologie et j'étais la seule qui faisait de la déforestation tropicale par télédétection, même s'il y avait des chercheurs qui travaillaient sur les milieux tropicaux. Mais moi, j'étais vraiment la seule. Et en fait, j'avais un directeur à Lyon, un autre à La Réunion et un à Grenoble, mais dans un autre laboratoire, enfin dans un autre site physique. Ce qui fait qu'en fait, au quotidien, j'étais vraiment toute seule. Et il n'y avait personne avec qui je pouvais avoir des interactions scientifiques. Les quelques aides que j'ai eues d'anciens professeurs ou encadrants qui me disaient « Viens passer un peu de temps avec nous, viens nous aider », on ne m'a pas laissé y aller, en fait. Je devrais peut-être pas dire ça, mais le contexte global était vraiment un peu foireux. Il y a des questions de personnes aussi. Et du fait que peut-être j'étais juste pas faite, moi, pour faire une thèse. Parce que la thèse, c'est quand même... Je me mets beaucoup en question. Et du coup, en thèse, des fois, si personne n'est là pour te sortir du gouffre, et tu t'enfonces toujours un peu plus dans le gouffre. Et moi, je pense que j'ai pas pris la bonne direction.
Est-ce que justement, au cours de ta thèse, t'as pas eu des petites mains qui se sont tendues, qui t'ont aidé un petit peu à sortir la tête de l'eau et...
En fait, je voulais arrêter. Là, et au bout d'un an, je voulais déjà arrêter ma thèse. J'ai appelé un ancien prof qui m'a dit « Non, vas-y, continue. Tu verras, c'est cool. Là, tu vas récupérer un nouveau directeur. Ça va bien se passer et tout ça. » Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ça ne s'est pas vraiment arrangé pour moi. En tout cas, je pense vraiment que ce n'était pas pour moi, en vrai. Ou alors, c'était une expérience qui m'a permis quand même... Il n'y a pas que du négatif dans la thèse, hein. faut pas le croire. Enfin, dans mon expérience, j'ai quand même acquis pas mal de choses qui m'aident aujourd'hui, notamment la curiosité d'aller faire de la biblio, de m'intéresser à ce qui sort quand même aujourd'hui, de faire une espèce de veille scientifique, une capacité de charge de travail qui est quand même pas anodine. Il y a plein de choses quand même que la thèse m'a apporté. Je peux pas dire tout jeter dedans non plus, quoi.
Dans un autre épisode de Week, on a interviewé Léa, jeune étudiante qui venait de terminer le master en télédétection à Rennes et qui rêve d'être pilote de drone. On demande alors à Marine comment c'est possible de devenir pilote.
Alors, en fait, c'était pas ma vocation première d'être pilote de drone. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le traitement d'images satellitaires en application au milieu forestier. Pilote de drone, en fait, c'est en entrant à l'ONF que j'ai été formée à ça. C'était pas initialement, ça venait pas initialement de moi en fait. C'est juste que on m'a demandé de travailler sur ces aspects-là parce qu'on a commencé à développer cette activité en 2018 dans notre établissement.
Mais du coup, t'es super fière aujourd'hui de dire ok, c'est moi qui fais les acquisitions drones.
Plutôt parce qu'en plus, je crois que je suis une des seules filles. on a eu justement un séminaire national cette semaine avec l'ensemble de ce qu'on appelle les dronistes. Et c'est vrai qu'en fait, c'est que des hommes. Et au début, j'étais la seule femme. Là, il y en a une seconde qui est arrivée, mais je suis une des seules qui fait de la photogrammétrie. Elle est plutôt vocation communication.
Et comment tu vis ça, justement ?
Eh bien, c'est une bonne équipe, en vrai. Ils sont assez... le fait d'être une femme, des fois, tu te dis, bah, j'ose moins proposer des choses, peut-être, je sais pas. Si c'est... En fait, c'est difficile de différencier ce qui est lié à la notion de genre de à la notion de à la personnalité.
Marine nous dit qu'elle est une des seules femmes de son entourage professionnel à travailler sur le traitement d'images drones. La réglementation impose qu'à partir de mars 2022, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier un certain nombre d'indicateurs qui permettent de comparer la situation respective des femmes et des hommes au sein de l'entreprise. On voit sur le site de l'ONF que ces indicateurs montrent que l'égalité entre genres semble plutôt respectée pour ce qui concerne la rémunération et les augmentations salariales. On a demandé à Marine si ces règles ont permis de parler davantage de genre entre collègues.
On ne parle pas en vrai... Enfin, moi, jusqu'à présent, j'ai pas trop parlé de questions de genre avec mes collègues. Par contre, à l'ONF, il y a une vraie politique d'essayer d'équilibrer un peu les choses parce que, historiquement, l'ONF, c'est quand même un établissement très masculin avec beaucoup de personnel technique ou d'encadrement qui étaient des hommes, des ingénieurs ou des techniciens forestiers. Et les femmes, c'était plutôt reléguées au rang des administratives. Aujourd'hui, ça évolue beaucoup. À titre d'exemple, dans ma direction territoriale, la responsable de la direction territoriale, c'est une femme. Son adjointe, c'est une femme. La chef du service forêt d'été, c'est une femme. Et je viens d'apprendre que ma nouvelle directrice d'agence serait une femme. Donc il y a quand même des choses qui évoluent. Après, dans les métiers techniques, ça reste encore beaucoup majoritairement des hommes. Après, dans les bureaux à l'agence Bretagne, il y a quand même majoritairement des femmes. Sur le terrain, c'est majoritairement des hommes. On a 2 techniciennes forestières seulement en Bretagne, sur 35 postes, quelque chose comme ça, ou 30 postes. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué les relations entre genres, en fait. Moi, j'ai été beaucoup sur le terrain récemment avec les agents d'une unité territoriale. Et bien que femme, ça n'a pas posé de problème, quoi. J'ai pas de problème à m'intégrer.
Ce qui nous a marqué dans le parcours de Marine, c'est certes toutes ses expertises sur l'application de la télédétection au milieu forestier. Mais on a aussi remarqué qu'à côté de son travail, elle a beaucoup de centres d'intérêt et elle est impliquée dans différentes activités. Certaines d'entre elles sont liées à la nature. Elle est bénévole à l'LPO et elle a fait du woofing dans lequel elle a travaillé avec des animaux. Mais d'autres activités n'ont apparemment rien à voir avec l'environnement. Elle fait par exemple du théâtre, de la musique, et elle est passionnée par le tissage et les arts de la laine. Est-ce que s'investir dans ces activités est plutôt une échappatoire ou au contraire quelque chose qui nourrit sa créativité au travail? Avant de nous laisser, on demande à Marine comment elle voit cette articulation entre le travail et tout ce qui nous construit à côté.
Alors, tu parles probablement de la tricopathie, donc de fait d'être accro au tricot, aux arts de la laine de manière générale. Ça, j'ai commencé en thèse parce que j'avais besoin de faire des activités manuelles et parce qu'on était trop dans l'intellect, en fait. J'ai trouvé que j'avais besoin de redescendre un peu. Et du coup, ouais, le fait de voir une progression, de créer des choses, les gens, ils sont là, « Waouh, ouais, c'est trop beau !» Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Et c'est surtout que... Aussi, moi, j'ai commencé à m'intéresser. Au début, c'était vraiment juste l'activité tricot. Et en fait, c'est devenu progressif où je me suis intéressée à toute la chaîne de production. Du coup, je suis même allée tondre des moutons. J'ai fait du woofing en rapport avec ça. J'apprends à filer, j'apprends à tisser, j'apprends plein de choses. Et du coup, c'est assez valorisant quand les gens, ils sont contents que tu leur offres quelque chose que tu as fait toi. Tu as passé du temps dessus. Et voilà. Et sinon, une autre activité que je pratique... et qui m'aident quand même pas mal, je crois. C'est le clown de théâtre. je suis tombée là-dedans complètement par hasard. Mais en fait, pas complètement non plus, parce que quand j'ai commencé à donner des cours, j'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Du coup, j'ai voulu faire du théâtre pour essayer d'apprendre à mieux m'exprimer, à être moins stressée, à prendre plus confiance justement face à un public. Et par hasard, j'ai détesté le théâtre, hein, mais par contre, j'ai trouvé le clown. Et franchement, ça t'aide vachement à habiter plus ton corps, à prendre confiance dans l'expression de tes émotions, à apprendre à... Bon, le clown parle pas forcément toujours de manière très, très scientifique ou quoi, mais moi, je trouve que d'être confronté au public, ça t'aide à moins être dans le jugement quand t'es en train... envers toi-même, hein, le jugement envers soi, quand t'es en train de faire du clown.
Est-ce que tous les doctorants, selon toi, devraient faire de cours de clown alors?
Ça devrait être une formation obligatoire.
Je pense que ça serait peut-être plus pertinent. Ouais. Parce que ça permet de se décharger aussi pas mal d'énergie et de stress.
C'était Women in Copernicus Podcast, une émission conçue et réalisée par Roberta, Marie, Guglielmo et Gwenaëlle, en collaboration avec le collectif Women in Copernicus et la Radio CELAB. Musique et habillage sonore de Romain Leduc. Retrouvez les prochains épisodes tous les 15 jours, les mardis de semaine paire à 18h, sur CELAB, la radio sauvage.